C'est Diane?
Ah oui. On a tellement eu mal, toute la famille. Même si ça fait 45 ans, là, ça change rien pour moi. C'est comme si c'était hier.
J'ai trouvé épouvantable, puis je le trouve encore épouvantable, d'avoir perdu un enfant de cette façon. Mais de ne pas savoir c'est qui, puis pourquoi, ça, c'est pire.
Monique est avec nous ce matin pour nous présenter sa série documentaire d'enquête, 6 épisodes. Ça commence le 4 juillet prochain sur ici-tout.tv Extra. Et le titre de la série, Le Dernier Soir. Monique, bonjour.
Allô.
Avant qu'on parle de la série.
Oui.
Comment va l'enfant? Comment va la mère? Comment va le père?
Tout le monde se porte à merveille. Merci de demander. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin. C'est sûr qu'on a vécu un grand chambardement de vie au cours des dernières semaines. L'héritier a 3 semaines, jour pour jour, aujourd'hui. Et Alain avait raison, hein? Je ne me lève plus qu'à 3 heures, mais bien toutes les 3 heures. Cependant, Paul, c'est 1-0 pour l'héritier. Parce qu'en théorie, en ce moment, je dors plus avec lui qu'avec toi.
C'est vrai?
Ben oui.
Bon, c'est vrai. Alors,
On verra à moyen terme, mais pour l'instant, il est... ben, je peux me recoucher après.
Oui, il y a ça. Il est mignon. D'abord, oui. Il est avec Frédéric et il roupille depuis qu'il est arrivé. Il se repose tranquillement. La vie est belle. Il n'est pas trop stressé.
Depuis ta revue de presse ce matin, d'ailleurs.
Excellent. Ouais, on le félicite. Ben, bravo, d'abord. Et parlons de la série. C'est toute une histoire. C'est un double meurtre commis en mai 1975. Diane Derry, elle a 13 ans. Mario Corbeil, 15 ans. 2 ados. Qui sont assassinés. Et l'idée, évidemment, c'est de prendre ce qu'on appelle un cold case et de refaire l'histoire à partir, évidemment, souvent de nouvelles techniques, nouvelles informations, des rencontres avec les gens de l'époque. D'abord, pourquoi ce cas-là en particulier?
Bien, en fait, là, c'était très aléatoire. Hein, parce qu'au départ, quand on a eu l'idée de faire une série du genre, il n'y en avait pas encore au Québec, on sait qu'on en a plusieurs aux États-Unis, encore fallait-il trouver l'histoire. L'histoire qui allait nous permettre de creuser et d'aboutir avec un 6 épisodes comme celui qu'on présente. Il n'y avait aucune assurance de résultat dès le départ. Donc, on a fait une pré-recherche et on a fouillé en amont pour voir est-ce qu'il y a de la matière première. Mais quand on a commencé à tourner, on ne connaissait pas la fin et on ne savait pas ce qui allait se passer en cours de route. Et c'est ce qui rend la série, je pense, d'autant plus intéressante parce qu'on vit les hauts et les bas, les embûches, les tuiles qui nous tombent sur la tête, des gens qui veulent parler, d'autres qui ne veulent pas, des gens qui finalement changent d'idée. Tout ça a été vécu en temps réel. Mais le cas, au départ, je regardais des crimes non résolus, évidemment. Il y en a beaucoup qu'on connaissait. Et quand je suis tombée sur Diane et Mario, c'était une histoire que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, attends un peu, là, on a 2 adolescents qui ont été assassinés sur la rive sud dans les années 70. On n'a jamais entendu parler d'eux, alors qu'on a entendu parler, par exemple, des Sébastien Métivier à de multiples reprises, qu'on n'a jamais, jamais retrouvés. Alors, j'étais curieuse d'entrée de jeu. Et quand on a commencé à fouiller, qu'on a communiqué avec les familles, qu'on a compris que ces gens-là attendaient depuis plus de 40 ans de savoir ce qui s'était passé, et quand on a compris la façon dont ils avaient été assassinés, et qu'on a découvert les premiers éléments, on s'est dit, il y a quelque chose là à fouiller.
Il arrive parfois que les policiers savent, ou en tout cas une bonne idée, mais sont incapables de le démontrer devant un tribunal. Dans ce cas-là, ce qu'on constate rapidement, là, c'est qu'il y a beaucoup de néant, il y a beaucoup d'hypothèses, il n'y a aucune certitude, en tout cas officiellement. Là.
Pas de certitude, effectivement. Même on n'était pas sûr au début si la preuve avait suivi, parce qu'au départ, c'est la police de Longueuil qui avait l'enquête. Ça a été transféré à la Sûreté du Québec en 1979. C'était de savoir est-ce qu'il restait des preuves, qu'est-ce que la Sûreté du Québec fait avec ça aujourd'hui. Tout ça va être présenté, bien sûr, dans la série, mais c'était le néant. C'était le néant pour les proches. Et eux ont été très surpris de nous voir arriver.
Bon,
parce
ça, c'était mon autre question. Ouais. Quand on approche une famille, bon, les frères, les sœurs, le père, la mère, en disant, écoutez, on veut retravailler ce dossier-là. Ça fait plus de 40 ans. Il ne se passe rien avec la police. Vous avez été reçu comment?
La famille Derry, dès le départ, est un peu tombée en bas de sa chaise parce qu'eux se sont dit, enfin, des gens qui s'intéressent à ce qu'on a vécu et qui s'intéressent à Diane, bien entendu. Les deux familles ont réagi de façon différente dès le départ. Pour ce qui est des Corbeil, ça a été un petit peu plus difficile au début. Et ça aussi, on le cache pas. Vous allez le voir, on montre vraiment tout ce qu'on a vécu. Et c'est normal parce qu'on débarque après 40 ans et on dit, écoutez, on aimerait revoir l'enquête. On aimerait tenté une tentative ultime, en fait, de vous aider. Mais au final, tout le monde a été très, très ravi de ça. Ils savent qu'il n'y avait pas de garantie de résultat non plus, mais pour eux, c'était une façon de tenter un peu le tout pour le tout. Les quatre parents étaient toujours vivants, donc le père, la mère de Diane et de Mario, après toutes ces années, les frères et sœurs. Donc, quand on a compris que toute la famille était encore en vie, c'était ça aussi un des défis dès le départ. Qui est toujours vivant après autant de temps? Dans les enquêteurs, c'est sûr qu'il y en a qui sont décédés en cours de route, mais il existe encore des policiers qui ont travaillé sur l'enquête qui sont, eux, toujours vivants.
Bon, je ne dirai pas trop fort, mais j'ai regardé les 6 épisodes.
Les versions, oui.
Donc, on en gêne vite comme ça.
À titre de mentor et de conseiller personnel.
Mais,
oui.
Non, mais ce qui. Il y a un certain nombre de choses qui frappent. D'abord, c'est un peu. Et je comprends les proches de vouloir dire qu'est-ce qui s'est passé avec notre gars, avec notre fille. Puis bon. Mais en même temps, là, ça vient brasser des émotions. Ça peut déranger certains secrets de famille. Ça peut également ramener à l'avant-scène des gens qui préfèrent être discrets. Puis là, on est à Longueuil, tout près de Saint-Hubert. C'est une trail où ça s'est passé. Quand tu avances dans ça, as-tu l'impression que, même auprès des gens de la famille, ça peut être dérangeant de voir que ça avance, puis des amis, puis les voisins, puis tout ça, que tu viens comme mettre un peu un projecteur sur une vie de quartier de l'époque?
Une vie de quartier, un drame qui a marqué des dizaines et des dizaines de personnes. On a retracé, gravitant autour de ce double meurtre-là, une centaine de personnes. Il y a à peu près personne à qui on n'a pas parlé, en fait, que ce soit des gens du voisinage, des jeunes du quartier qui, justement, chassaient dans ce coin-là, qui ont pu être rencontrés par les policiers, entre autres. Et c'est certain qu'on se rendait compte, plus on avançait, plus ils se parlaient entre eux, souvent, après même des décennies. Certains étaient dérangés de nous voir arriver, de recevoir notre coup de fil. C'est clair, il y en a qui n'étaient pas contents.
Mais même des gens qui peuvent avoir peur. Moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup frappé.
Il y a des gens qui ont peur, ouais.
J'irai pas dans le détail, là, évidemment, mm-hmm. Mais de voir que 40 ans, plus de 40 ans plus tard, t'as peur si jamais tu dis quelque chose qui pourrait peut-être amener... Une arrestation.
On sent un peu l'omerta, mais ouais. Il y a des personnes dans la série, des gens du quartier, qui sont allés assez loin dans des sentiments, des impressions, des révélations. Des gens qui n'avaient jamais été rencontrés par les policiers, cela dit, parce qu'on a rencontré des gens qui témoignaient pour la première fois. Et c'est clair qu'il y a des éléments là-dedans qui sont susceptibles d'intéresser. On verra bien la Sûreté du Québec. Mais c'est sûr qu'on a brassé toutes sortes de choses, même chez des amis. En allant plus loin que la famille, là, on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave à l'époque, que ça a touché beaucoup, beaucoup de gens et qu'ils n'ont jamais oublié qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, on dit que le temps peut faire son œuvre. Les gens ont eu des enfants, ils ont eu des familles, ils ont eu leur vie. Et on le sent, ça, chez certaines personnes. Ils ont évolué, ils ont cheminé. On est allé dans des endroits incroyables, peu recommandables parfois, avec des individus, on n'était pas trop sûr, on arrivait là dans le fond d'un rang, puis et je sentais souvent qu'il y avait quelqu'un qui savait quelque chose, puis j'essayais fort là, d'aller chercher des confidences. Vous allez apprendre des choses, on a découvert certaines affaires dans la série, évidemment, on garde le punch, si je peux me permettre, pour les gens
mais
qui vont visionner.
Mais sincèrement, moi, j'ai sursauté, là, parce que des trucs, tu te dis comment ça se fait que cet élément-là arrive, là, c'est pas prévu, c'est pas comme dans la séquence normale des choses. Et là, tu découvres ça. Et là, je veux pas dire de détails, mais je veux revenir sur le travail des policiers.
Oui.
Les gens vont avoir un choc de voir comment, à l'époque, on faisait des enquêtes. Là. On n'est pas dans les techniques d'aujourd'hui. Prendre des éléments de scène de crime à main nue, mettre ça dans un sac...
C'est... hallucinant.
Ça n'a pas de bon sens. Enquêtes comme ça, là, ouais. Il y a quelque chose de...
En même temps, c'était les méthodes de l'époque, mais on les a en plein visage, ouais. Les méthodes de l'époque. Et on peut voir aussi les répercussions que ça a eues à l'époque et que ça a encore aujourd'hui, le fait qu'on travaillait complètement différemment et même qu'on a pu négliger certains éléments, disons-le comme ça, là, parce que vous allez voir, on a rarement vu autant de gens sur une scène de crime. Et c'est problématique encore aujourd'hui quand on veut aller chercher de nouveaux éléments. Mais c'est sûr que ça jette un projecteur sur une époque. Et je pense que les gens vont se remettre dans cette époque-là, les années 70, bien sûr, ceux qui l'ont vécu, et vont s'identifier. C'est la première fois qu'on a une histoire criminelle qui va s'écouter comme une fiction, mais qui concerne des gens qui ont vécu un drame, une vraie histoire, exactement, et qui nous ressemble aussi, qui est très marqué au fer rouge, très québécois, du début à la fin. C'est un job de recherche, Paul, hallucinant, ce show-là, chapeauté par Manuel Légaré, qui va probablement être sollicité par à peu près tous les corps policiers au Québec parce qu'elle a fait un job hallucinant.
C'est parce qu'on n'est pas juste à Montréal, on n'est pas juste à Rive-Sud, vous êtes allé en Floride.
Toronto également.
Et puis, disons, ça déborde vers l'Europe.
On s'est promené, oui.
Est-ce que tu sais qui a fait ça? Le double meurtre. Non, je veux pas le nom, là. Je vais faire...
Non, parce que pour des raisons légales,
de tout ça, là, de toutes les rencontres, puis de... Est-ce que dans ta vision, tu dis, pas mal sûr que...
Je vais me garder une petite gêne, mais je te dirais qu'on a une bonne idée de qui pourrait avoir commis ce double meurtre-là.
Et le motif aussi. Une bonne idée?
Peut-être. Ça reste flou parce qu'évidemment, on n'était pas là.
Puis parce qu'on ne sait pas. T'es deux ados assassinés par balle, tu dis, mais c'est quoi le motif?
Mais on explore plusieurs hypothèses et chapeautés par des experts aussi qui nous accompagnent là-dedans et qui, eux, y vont de leur théorie. On est capable d'avoir peut-être une idée de ce qui se serait passé. C'est sûr qu'il faut voir la série pour voir comment on arrive là et qu'est-ce qui va se passer. Mais il s'en est passé des choses entre l'épisode 1 et l'épisode 6, ça, je vous le garantis.
Y a-tu l'impression que le fait que la série donc, va être diffusée à compter du 4 juillet, que les gens vont voir ça... Puis à la fin, justement, vous donner les coordonnées de la police, là, que ça va délier des langues, que des gens vont vouloir parler et que la Sûreté du Québec qui mène l'enquête va peut-être retrouver ou avoir des éléments nouveaux?
J'espère, je le souhaite. Je le souhaite. C'est un peu pour ça qu'on a fait ça, évidemment. Et peut-être que certaines personnes vont se sentir en confiance après avoir vu la série. Après, peut-être qu'il y aura un effet d'entraînement aussi en voyant des gens témoigner, y aller avec leur cœur sur ce qui s'est passé. Leurs craintes aussi et leurs théories, je pense que ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et je le souhaite parce que ces familles-là, Paul, vivent avec ça. Là. Je sais qu'on ne dira jamais assez, un crime non résolu, une disparition à long terme, c'est la même chose. Ces gens-là se lèvent chaque matin avec un gros point d'interrogation. Ce sont des gens qui, les parents sont plus âgés, c'est certain, qui souhaitent, avant de partir, pouvoir connaître la vérité et ultimement imaginer à quel point ce serait exceptionnel si cette série-là pouvait apporter des réponses à ces deux familles-là.
On le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Bravo.
Plaisir, merci.
Vous et votre équipe. Alors, je rappelle, 6 épisodes le dernier soir, dès le 4 juillet, sur ici-tout.tv, extra. Alors, Nick, je vous laisse retourner à l'enfant.
Oui.
Est-ce que l'enfant s'est réveillé? L'enfant est réveillé.
Oui, l'enfant est réveillé.
Parfait,
bon,
sa mère s'en vient.
J'arrive.
Et non, on ne part pas de la pause. Je vais juste donner le sujet de tribune téléphonique tout de suite parce que je veux parler d'immigration, de laïcité. Ce sont les deux thèmes dominants de la fin de semaine. Et le gouvernement dit avoir réglé deux promesses électorales, puis en même temps d'avoir réussi à établir un certain cadre de fonctionnement, tant pour les immigrants que pour ce qui est des signes religieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous satisfait de ce que le gouvernement vient de faire? Êtes-vous satisfait sur l'interdiction avec les profs? Il y aura des recours devant les tribunaux. C'est pas demain la veille que le débat va se terminer. Mais avez-vous l'impression qu'on va aller plus loin? Puis là, il y a ce sentiment canadien, j'insiste, canadien, sur le fait qu'on trouve qu'il y a un peu trop d'immigrants. Puis qu'on devrait réduire le nombre, sauf pour les gens qui viennent ici avec un emploi garanti. Alors, est-ce qu'on doit réduire l'immigration? Êtes-vous d'accord avec les signes religieux? Et avez-vous l'impression qu'on avance? 514-790-9850. 514-790-9850. Donc, signes religieux, immigration, réduire le nombre, augmenter le nombre, garder le même nombre. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux et celles qui vont contester la loi sur la laïcité?